Bonjour. Donc, quand madame, quand on m'a demandé de commencer ce stage par une intervention un peu générale sur le rôle du langage en maternelle, j'étais un peu embarrassée. Parce que parler de l'importance du langage et du travail sur le langage à l'école maternelle, c'est pas si facile. Tant ça a été répété que c'est un apprentissage central, tant il y a eu des textes importants, intéressants, je pense à tout ce qu'a écrit Hébrard dans les instructions déjà anciennes. Bon, ça paraît évident que c'est un apprentissage central et au cœur des missions de l'école maternelle. Alors, on sait aussi combien les usages du langage sont socialement marqués et le rôle que ça a dans l'échec scolaire. Alors, je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau et qu'est-ce que je vais pouvoir dire que les gens n'aient pas l'impression de déjà bien connaître? Alors, en fait, d'autant que tout ce qu'on sait sur le langage, tout ce qui a été dit, les instructions de maternelle ont été longtemps parmi les plus intéressantes, enfin les documents d'accompagnement, ça n'a pas empêché ce travail-là d'être très difficile, ça n'a pas empêché l'échec que c'est une partie de l'enseignement qui reste très problématique. Alors il m'a semblé quand même que le contexte actuel autorisait à reposer ces problèmes, à redire des choses, parce que ça a éclairé un petit peu différemment des choses que tout le monde sait. Alors, excusez-moi quand même si je vais dire des choses que tout le monde sait. Le contexte, il me semble qu'il ravive ces questions-là. Bon, j'ai pensé autour de trois points, il y en a peut-être plus. Alors, le premier point, c'est pas original, mais c'est le contexte politique de dénégation des missions de l'école maternelle, des missions du statut d'apprentissage scolaire de l'école maternelle. Bon, je ne vais pas reprendre, ça serait un petit peu l'histoire des couches, etc. Mais c'est sûr que dans l'opinion, si on accepte les raisons économiques, hein, bien sûr, qui sont prégnantes, il peut avoir l'image de l'école maternelle, surtout pour les petits, pour la scolarisation des plus jeunes, comme le prolongement d'un milieu naturel, un espace de vie, de convivialité, etc. Et donc... je dis, c'est pas un travail d'apprendre à parler, d'apprendre à vivre ensemble, pour reprendre des expressions. C'est pas un travail professionnel pour l'enseignant, ça mérite pas le niveau master. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai mis le terme de travail dans le titre. C'est une dimension auquel, depuis, j'ai travaillé avec Frédéric François, comme la plupart beaucoup de gens qui sont intéressés au langage en maternelle, enfin, au travail du langage oral. En quoi est-ce qu'on travaille à l'école maternelle, bien sûr, mais en quoi le travail sur le langage, enfin le fait de faire parler les élèves, comme on dit, est un travail. Donc un travail pour l'élève et un travail pour l'enseignant. Et ça se pose d'autant plus que cette question, est-ce qu'on travaille, la dénégation du statut scolaire de l'école maternelle, ça induit une pression... qui remet quelquefois en cause ce qu'on a pu appeler la pédagogie invisible. Bon, c'est assez critique, hein, par exemple dans la bouche de Bernstein ou dans la bouche d'Elisabeth Bautier qui a repris ce terme. La pédagogie intégrative, moi je dirais, plutôt. Hein, et donc ça induit une pression de scolarisation. Donc je vais en parler après, bon, qui me semble frappante. Donc, il y a deux questions. Qu'est-ce qu'on travaille, l'élève et l'enseignant, quand on travaille le langage. Et l'autre facette, c'est est-ce qu'une pédagogie non scolaire, enfin avec les guillemets qu'il faut, peut cependant être un enseignement rigoureux, bien centré autour d'apprentissages précis, mais sans être un entraînement et un enseignement... alors, c'est sûr que c'est un problème très, très complexe, hein, c'est lié au problème de l'évaluation, c'est au problème des résultats. Bon, est-ce qu'on est forcé, pour légitimer cette dimension de travail de la maternelle, des élèves et de l'enseignant, pour rendre visibles les apprentissages, de primariser, moi quelquefois je dirais presque même de secondariser l'école maternelle. Donc l'idée c'est de réaffirmer à propos du langage cette dimension de travail et regarder confiance dans ces modes de travail de l'école maternelle de montrer le sérieux et l'importance de ce qui se passe, même si ces modes de travail sont remis en cause. Et d'expliciter, c'est le terme de fil rouge, les principes qui peuvent faire qu'une approche intégrative, non scolaire, apparemment non analytique, peut être rigoureuse, peut être contrôlée. Alors, le deuxième point relatif au contexte, bon, peut-être que c'est un peu polémique, vous prenez comme ça, c'est l'accent prioritaire qui me semble mis actuellement sur la préparation à la lecture, et en particulier sur le travail sur le code et sur la découverte du principe alphabétique. Alors, j'ai des discussions vives avec Roland Guagou là-dessus. Mais il me semble que cette priorité me rappelle parfois le travail intensif sur les prérequis dans une perspective de prévention et de compensation dans les années 70-80. C'est ça qui est, quand on est vieux comme je le suis, on a une vision un petit peu historique et on a quelquefois l'impression que des formes modernes reprennent des étapes de l'histoire ancienne. Alors, il y a plusieurs raisons. Je ne voudrais pas dénoncer les échecs de lecture qui subsistent, le fait que ces échecs soient socialement marqués, la mission de l'école de prévenir, même si le terme est ambigu, ces difficultés, notamment pour les élèves dont on prévoit, dont on anticipe les difficultés. Donc ça amène l'école maternelle à centrer son action sur ce qui semble préparer le plus directement et le plus efficacement à ce qu'on attend de l'élève. On fait la même chose en troisième pour le lycée. Hein, ce qu'on attend de l'élève au CP, à l'école primaire, et dont on sait que ça pose problème. Bon, par exemple, le principe alphabétique, l'analyse phonologique qu'on introduit de plus en plus tôt. Alors, on peut pas. Je ne dis pas que je ne veux pas assimiler les recherches actuelles et les expérimentations didactiques actuelles à la pédagogie de compensation et aux entraînements sur les prérequis des années 70. Je ne sais pas si... je crois que l'assistance est plus jeune et n'a pas connu ça. Mais c'est... Bon, pour moi, c'est une histoire quand même relativement récente. Le principe reste un peu le même. C'est-à-dire que c'est partir d'une analyse du savoir visé. Donc ici, le principe alphabétique, etc. Enfin, l'apprentissage de la lecture dans cette dimension d'accès au code alphabétique, etc. Et organiser des entraînements par rapport à ce point d'arrivée pour préparer l'apprentissage ultérieur. Et donc, le principe de la pédagogie de compensation était que plus il y a manque ou difficulté anticipée chez les élèves, plus il faut mettre l'accent sur ces points-là et plus il faut commencer tôt. Je schématise un peu, hein, mais c'était ça. Alors, à l'époque, ces principes avaient donné lieu à de vifs débats. Hein. Alors, je reprends, même si c'est un peu évident, mais sur la fragilité d'entraînement analytique de type prérequis, même si le mot est un peu tabou maintenant, hein, quand les élèves n'ont pas encore construit le sens des apprentissages et un rapport un peu global au langage, à la réflexion sur le langage, à la façon de s'en servir, etc. Quand ils ne sont pas entrés dans des usages langagiers d'investigation du monde et de rapport aux autres. On a critiqué le fait de se centrer sur donner tant d'importance à des éléments analytiques. Deuxième débat, sur les aspects principaux des apprentissages visés par ces entraînements. Alors, ce qui correspond à un moment de la recherche ou à un moment des orientations institutionnelles. Bon, moi, je suis chercheur depuis très très longtemps et j'ai vu comment la recherche est partielle dans ses intérêts et dans les savoirs qu'elle produit et a du mal à relativiser, à situer ses avancées dans un ensemble. Donc, à un moment, on travaille beaucoup sur la phonologie, par exemple. Ne pensez pas que j'ai une dent contre cet aspect-là, mais c'est typique. Souvent, quand on présentait les travaux de Roland Guagou ou autres, les enseignants disaient « Oui, mais il y a autre chose, il y a la syntaxe, il y a les mots, il y a les phrases, etc. » À l'époque, les chercheurs s'en occupaient pas. Et je vois des collègues à l'étroit qui découvrent l'importance de la conscience métasyntaxique, alors que les enseignants sentaient que c'était aussi important. Donc, la recherche est partielle et elle ne peut pas dicter les priorités, parce que forcément, elle se focalise sur une chose puis sur une autre. Bon, et plus généralement, je correspond assez bien à ce qui a été dit, débat sur le choix de partir du point d'arrivée. Enfin, si on peut dire que le CP, c'est le point d'arrivée, hein, c'est pas juste, c'est plus loin maintenant. Et de remonter jusqu'aux prémices des compétences, à partir d'une analyse de la compétence visée. Plutôt que de susciter le développement des savoirs, des démarches, selon une dynamique qui part des fondements. Donc c'est ça un petit peu le sens de fondement. C'est-à-dire, c'est pas la même façon de construire le référentiel. C'est vrai aussi pour la formation des enseignants. Si on décompose l'expertise pour penser que c'est comme ça qu'il faut former des étudiants en master, je crois qu'on est à côté de la vraie dynamique de transformation d'un étudiant en... Bon, enfin, ça, c'est un autre problème. Donc, je pense que ça, la revalorisation de l'école maternelle autour d'objectifs identifiables, précis, évaluables, je ne veux pas remettre en cause, c'est fondamental, ça répond... En partie à ce besoin. Bon, c'est un coup. Là, je ne vais pas revenir sur l'histoire des EPS. C'est aussi en réaction contre des approches trop globalisantes qui ne permettaient pas d'évaluer. Puis on en a pu dire que dans certains cas, il y avait une déscolarisation dans les EPS au profit d'objectifs de socialisation, d'identification, etc. Bon, il y a aussi un contexte de rapport de force dans la recherche, ça a été abordé, qui met au premier plan actuellement les recherches de type cognitiviste, de psychologie cognitiviste, au dépens des approches un peu anthropologiques ou sociologiques. Il n'y a plus beaucoup de sociolinguistique, par exemple, c'est un signe des temps. Bon, donc, une partie de mon travail, ça va être de montrer comment... Travailler sur le langage, même dans les formes de la maternelle, de façon globale, c'est un fondement et c'est peut-être plus... Enfin, c'est un rapport qualité-prix, si on peut dire, plus opératoire, plus riche que de commencer trop tôt des entraînements analytiques. Bon. Et le dernier élément du contexte qui justifie aussi le mot travail, puis la façon dont je vais essayer de présenter les choses, mais il ne faut pas que je parle... C'est qu'en fait, c'est ce regard sur l'histoire. Je crois qu'actuellement, on ne peut plus être naïf pour les institutionnels comme pour les chercheurs ou les formateurs. Il y a beaucoup de savoir sur le langage, il y a beaucoup de textes qui sont riches, il y a beaucoup de ressources en fait, mais la persistance de difficultés amène à penser, c'est ce qui a été dit, donc je ne vais pas insister, qu'il ne faut pas être trop naïf quant à l'effet des préconisations ou de la présentation de savoir. Le travail sur le langage a tout un passé de dénonciation, d'injonction. Bon, ça n'empêche pas que ça reste un travail très difficile. Et ça se heurte toujours aux mêmes obstacles, le temps, le nombre, l'hétérogénéité des élèves, le fait que l'oral ne laisse pas de traces et que donc c'est très difficile de mesurer le profit en termes d'apprentissage, enfin, etc., vous connaissez bien ça. Et tout discours de savoir qui ne tiendrait pas compte de ces éléments-là perd sa pertinence. Les chercheurs peuvent pas, on peut pas dire « yaka ». Donc je crois qu'il faut, ça fait des années que j'essaie d'envisager le travail ou la collaboration avec des enseignants et mon travail de formateur en termes ergonomiques. Enfin, j'avais piloté un numéro qui était sur le travail de l'enseignant et de l'élève dans l'apprentissage, un numéro de repère, en essayant de voir non pas qu'est-ce qu'il faut faire pour l'apprentissage de la lecture au CP, mais qu'est-ce que c'est que le travail dans la durée de la journée avec et de la semaine et du mois et le nombre, etc. Voilà. Et donc c'est pour ça que je veux beaucoup parler de dilemmes et d'obstacles. Et ce que j'espère, voilà, je termine un peu l'introduction, c'est montrer que c'est un travail qui est frustrant, dans lequel on gagne jamais sur tous les tableaux. On ne gagne jamais sur tous les objectifs. on n'arrive jamais à faire progresser sur tous les points tous les élèves, mais que d'assumer ces dilemmes, les objectiver, pas se culpabiliser, résister aux pressions et aux modèles, ça aide à diversifier, à assumer et à choisir. Alors les fils rouges, c'est ce qui va permettre d'assumer, de construire des situations ou de varier les objectifs, trouver les taquets qu'on peut faire bouger pour assumer le fait que c'est jamais satisfaisant. Voilà. Alors, je vais reprendre. Donc, je reprends pour présenter un petit peu l'approche un peu générale du langage qu'on m'a demandé. Un cadre que j'ai déjà développé, certains le connaissent, enfin ça ne va pas paraître du tout original. Bon, j'ai coutume de dire que tout travail sur le langage, quand il est riche, met en jeu plusieurs dimensions ou peut être appréhendé à travers plusieurs cadres. Bon, la notion de cadre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la façon de les voir et la façon de formaliser une priorité. Alors, la trilogie, je l'annonce, je vais les reprendre successivement en essayant de développer un peu les mêmes points pour chaque. Bon, c'est-à-dire qu'on peut considérer le langage en maternelle, mais de toute façon, le travail sur le langage oral dans sa dimension identitaire et socialisante. J'annonce les points, je vais le reprendre. Bon, certains connaissent déjà ce cadre, puisque on peut le considérer dans sa dimension cognitive, catégorisante, heuristique, de construction des raisonnements, de la coopération pour comprendre le monde, etc. Et on peut le considérer dans sa dimension d'investigation, enfin de développement des ressources, non plus langagières, mais linguistiques. Alors, pour chacun, c'est important de séparer pour savoir à quel moment on donne la priorité, à quel moment du développement général ou de la semaine ou de la séquence. C'est sûr que toute situation intéressante met l'accent sur l'un ou l'autre, mais c'est important parce que souvent ça entre en conflit. Je vais revenir après sur les conflits. La dimension socialisante, d'identité, etc., de coopération, quelquefois elle entre en conflit pour l'enseignant avec des objectifs plus précis d'exigences linguistiques, par exemple. Alors, chaque fois, je vais reprendre un petit peu le même questionnement dans chacun de ces cadres. Bon, en quoi est-ce un enjeu pour l'école maternelle? Ça, je pense que c'est le sens donné aux mots oral et langage dans ce cadre-là. En quoi c'est un véritable travail pour l'élève? En quoi c'est un véritable travail pour l'enseignant? C'est un petit peu les rubriques que je vais revenir. J'annonce un peu les obstacles et les dilemmes qui correspondent à mon troisième. Et ensuite, en quoi c'est un fondement. Alors, le premier cadre sur la dimension identitaire et socialisante de la parole. Bon, alors on peut aller peut-être un petit peu plus précis que le vivre ensemble qui était dans les instructions de 2002. Bon, on peut dire la parole dans ce cadre-là, c'est ce par quoi se construit l'identité personnelle dans un rapport à autrui qui est fondé à la fois sur l'altérité. Moi, ce n'est pas les autres, moi, je ne suis pas fondue dans le groupe, moi, je ne suis pas agi, comme dit Brunner, sur l'altérité, sur la proximité. Alors, c'est le partage d'expériences et de catégories communes. Donc, ce qui est important de dire simplement, c'est que comme dit Vygotsky, la personnalisation, le fait que l'enfant va se construire comme un sujet qui a des intentions, des avis, c'est inséparable du fait qu'il se construise dans le groupe. Alors, quand on parlerait de fondement, on dirait que c'est important parce qu'on ne peut pas entrer dans un apprentissage, par exemple, aussi important et difficile que la lecture si on n'a pas construit une posture de sujet, une posture d'intention, si on n'assume pas le fait qu'on a un projet personnel. Donc, Brunner montre la genèse de cette identité dans le dialogue, en particulier, alors évidemment, avec un dialogue restreint, duel, et très lié aux conditions de la classe moyenne, de socialisation de la classe moyenne, enfin, comment l'adulte renvoie à l'enfant ce qu'il dit, ce qu'il fait, comme pourvu d'une intention, comme pourvu de, d'un but, enfin, donc le construit comme sujet qui veut faire des choses, qui a... Donc on peut dire, et comment l'adulte donne des rôles aux enfants. Donc c'est l'individuation dans la réciprocité. Alors bon, c'est bien sûr lié à, aux conditions de vie de la classe moyenne. Alors, en quoi cette dimension-là est un enjeu pour l'école maternelle? Bon, c'est un peu évident. Il y a un enjeu que je trouve démesuré, que la société, une demande démesurée qu'on fait à l'école concernant le langage oral, surtout dans les temps de crise, dit Hébrard, c'est que l'école, et en particulier le travail sur le langage, serait chargée de créer une culture commune. Je ne nie pas cette mission, hein, et de donner des outils de maîtrise du langage, etc., pour résorber la violence, pour apprendre la négociation, etc. Bon, je trouve que c'est comme pour la citoyenneté, c'est beaucoup demandé à l'école. Bon, alors l'enjeu, c'est bien sûr de créer quand même, et ça se crée en maternelle, par les interactions, par le rôle que vont y avoir les enfants, créer un espace où l'enfant se socialise, sa culture, a des règles de société, trouve une place dans un groupe, hein, c'est des choses que vous connaissez bien, mais en même temps trouve sa posture de sujet, qui a quelque chose à dire dans un groupe, par exemple, sans que ce soit par... Alors, c'est aussi, évidemment, bon, les chercheurs de l'école de l'ESCOL ont beaucoup développé ça, c'est aussi le lieu des exclusions, des marginalisations et des décalages. Je pense que les interventions vont le reprendre. Donc, dans le sens donné à oral dans ce cadre-là, ce sont toutes les interactions de la vie de la classe... C'est assez large, hein. Tout ce qui fait passer par le langage les activités communes, les projets, les interrogations, et donc par lequel se crée un groupe. Bon, j'aime pas beaucoup le terme qui est un peu à la mode en didactique actuellement de communauté discursive, parce que je pense que ça ne tient pas assez compte des tensions et des contradictions qu'il peut avoir, ne serait-ce dans un espace social de la classe. Où les enfants n'ont, je pense qu'il y a, c'est très, enfin la communauté discursive, c'est idéaliste à mon avis par rapport aux conditions réelles de l'espace de la parole dans la classe, mais c'est quand même un apprentissage. Donc c'est risqué pour l'enseignant parce que c'est là que se rendent publiques les différences entre enfants, les différences de socialisation et de référence. Alors en quoi c'est un véritable travail pour l'élève? Disons, cette dimension d'utiliser de la parole dans le dialogue, bon, sans dire des choses originales. Bon, pour les enfants de classe moyenne, même les enfants de classe moyenne qui sont socialisés dans ces usages du langage, de l'individualisation, de la coopération, et a fortiori pour ceux qui ne sont pas acculturés à ces formes-là, ça demande un saut important par rapport aux usages familiaux. Ça demande une décentration importante et une sorte de frustration, un contrôle de la frustration, qui anticipe, et là on retrouve Vygotsky, je crois qu'on peut trouver dans le fait d'entrer dans les échanges oraux de la classe, des choses qui anticipent cette rupture, cette décentration nécessaire qui va fonder l'entrée dans l'écrit, hein, si on suit Vygotsky. Alors, j'inventorie un petit peu ces seuils. Hein, c'est, bon, le seuil lié au nombre d'interlocuteurs, c'est, bon, ce qui limite évidemment les possibilités de transposition de l'étayage de Brunner qui sont dans la relation duelle. Alors, ça ne veut pas dire qu'avec, vous savez bien, hein, c'est pas ce que je veux dire, c'est que des formes très proches de l'étayage familial sont nécessaires avec certains enfants, les petits groupes. Bon, Agnès Florin a beaucoup insisté là-dessus, etc. Alors, apprendre le nombre d'interlocuteurs. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas dénoncer, a priori et de façon générale, comme on le fait quelquefois, les séances en grand groupe, sans se faire d'illusions sur elles. Je crois qu'on faut voir, est-ce qu'on peut y apprendre des choses. Donc, l'enfant doit apprendre l'écoute. Alors, apprendre l'écoute, on le voit souvent sur le mode moral presque, hein, la tolérance, etc. Je pense qu'on peut, enfin je l'avais fait dans un article, j'ai pas le temps ici de le faire, on pourrait faire un référentiel presque didactique, enfin au sens sans prendre didactique de façon trop technique, des objectifs, des aspects d'objectifs liés à l'écoute. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre l'écoute? Quel est le niveau d'écoute pour des enfants? Donc là, je ne vais pas le faire, mais j'ai essayé souvent en formation et dans un article de le faire. En quoi c'est un apprentissage qui relève de la didactique et pas simplement de l'éducation morale, quoi, du vivre ensemble. Donc diffuser, apprendre les tours de parole, les règles des prises de parole, différer sa parole et mémoriser ce qu'on veut dire, faire le lien avec ce qui a été dit avant, essayer de se situer par rapport à ce qu'a dit quelqu'un d'autre, essayer d'intégrer dans son intervention certains éléments qui ont été dits par d'autres élèves, pour faire qu'il y ait un espèce d'espace centré. Brunner a parlé beaucoup de l'apprentissage de l'attention conjointe ou l'attention volontaire. Donc le fait, par exemple, d'intervenir ou de prolonger quelque chose qui n'est pas forcément de l'intérêt propre de l'enfant. Ça, je crois que, ça pourrait être un travail d'atelier que de se dire quelles sont un peu les étapes. C'est des choses évidemment que les enseignants maternels savent faire. Hein. Attends ton tour. Est-ce que toi tu dis la même chose? Donc tu es d'accord avec un tel? Donc toi tu penses pas la même chose que lui? Enfin, ça c'est des choses. Mais c'est un véritable apprentissage. Le seuil lié au caractère volontaire, comme dit Vygotsky, insiste beaucoup pour la lecture, hein, sur le fait qu'il y a un côté arbitraire que les enfants doivent apprendre. Hein. Arbitraire au sens où c'est pas l'impulsion ou la motivation présente. Hein. Donc spontané, qui est propre à l'oral spontané. Donc s'intéresser à ce qui est l'activité proposée, même si c'est pas exactement... Alors ça veut pas dire qu'il faut faire des choses... arbitraire et inintéressante pour les élèves, mais ça fait partie de l'apprentissage. Participer au développement d'un thème qu'on n'a pas initié, et puis cet objectif très très important qui est la centration thématique, rester dans le thème. Bon, le seuil lié à la diversification des rôles discursifs, questionner, pas seulement répondre, prendre l'initiative, développer l'initiative d'un autre, converger, se différencier. Bon, assumer un monologue, participer au dialogue, bon, etc. Alors, il y a une question d'enrôlement. Alors, c'est vrai qu'on essaie, par exemple, à l'école Freinet, dont j'avais suivi la recherche, on essaie vraiment de matérialiser ces rôles en les institutionnalisant. Donc, on est celui qui réformule, on est celui qui compte les interventions des autres, on est celui qui critique, on est celui qui questionne. Bon, ça peut être une façon de rendre visible cette idée de diversification des rôles. Bon, le seuil lié aux nouvelles fonctions de ces interactions, c'est-à-dire des fonctions qui sont peu familières aux enfants, même ceux qui sont habitués au dialogue. Par exemple, discuter pour se mettre d'accord, pour prendre une décision, pour mettre au point les étapes d'un projet commun, pour comprendre ce qui s'est passé. Bon, donc, toutes ces fonctions de médiation des systèmes de signes pour contrôler l'action, prévoir, analyser pourquoi on s'est trompé, tout ça, ce sont des fonctions complètement nouvelles pour certains enfants et qui sont fondamentales. Bon, le seuil lié à l'individuation de l'énonciation, toi, qu'est-ce que tu penses? Toi, est-ce que tu es d'accord avec un tel? Toi, est-ce que tu dis la même chose qu'un tel? Bon, tout ça, c'est une construction très importante, je disais tout à l'heure, pour ne serait-ce que pour entrer dans le projet d'apprentissage de la lecture. Alors, il me semble que ça, c'est quelque chose absolument fondamental, mais quand même très difficile, parce que c'est très marqué culturellement. Et il me semble que c'est d'autant plus difficile... Il y a des enfants, comme dit Bernstein, qui sont plutôt dans la culture du nous et pour qui donner un avis, se démarquer, ben, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de leur construction. Et il me semble que on pourrait peut-être en parler après, c'est d'autant plus difficile, à mon avis, dans des contextes, des types de jugements qui sont très marqués culturellement. Et donc, je pense en particulier à la fiction. Et à certaines choses que je vois en littérature, enfin, dire, faire pour porter des jugements esthétiques, par exemple, me semble particulièrement difficile par rapport à porter des jugements dans d'autres situations. Enfin, ça correspondrait d'ailleurs à des choses qu'a analysé Bernstein. Enfin, j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, et sur le contrôle et le rapport réflexif, c'est-à-dire en fait, je parle tout le temps, j'ai pas écouté, on répète, on n'avance pas. Enfin, toutes ces choses qu'on est, que les enfants. Alors qu'on essaie de matérialiser avec des jeux de tons, des bâtons de parole ou des choses comme ça, ou la notation au tableau. Hein. Donc un rapport un petit peu de retour sur ce qu'on dit et sur la façon dont se passent les échanges. Alors si c'était facile, ça se saurait, hein, parce que de toute façon, ce que je dis là, donc, c'est un véritable travail dans l'enseignant. Donc on retrouve la subtilité des conduites d'étayage pour l'enseignant. Et vraiment, là, dans ce domaine-là, c'est particulièrement difficile de dire il faut. Bon, la subtilité, puisqu'il y a tout ce travail de construction de l'espace commun, ménager la place, l'espace de parole pour chacun, aider à différer sa parole et à se rappeler de ce qu'on voulait dire, rattacher ce que dit un enfant à la thématique du moment, ou au contraire, garder la convergence thématique, enfin c'est les choses quotidiennes, développer l'intentionnalité, enfin renvoyer à l'enfant le sens pragmatique ou l'intentionnalité de ce qu'il dit. Bon, c'est les choses que font les maternelles, et donc je crois qu'il faut prendre conscience, valoriser et dire c'est énorme comme travail, même si c'est le quotidien des maternelles. Alors, baliser les points d'accord, baliser les points de désaccord. Alors, en fait, ce qui est compliqué, c'est que ça risque toujours d'être... L'étayage risque toujours de devenir un contre-étayage. Et donc, on va dire, il faut intervenir parce que c'est par la médiation de l'enseignant, surtout pour les enfants jeunes, que, par exemple, les enfants se rendent compte des relations entre leurs interventions. Toi, tu dis comme un tel, ou est-ce que... c'est l'intervention de l'enseignant qui rattache au thème ou qui est garant du maintien du thème. Donc, on peut dire, ce sont des aspects de la concentration de Brunner, montrer la contradiction, un tel dit ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'enseignant qui souvent oblige à développer ou à justifier une parole qu'on a dit. Mais c'est sûr que ça risque toujours de devenir un contre-étayage quand on le fait trop, quand ça empêche une dévolution, quand, par exemple, on évalue trop vite, on renvoie tout de suite au groupe l'acceptation d'une réponse. Par exemple, on ne laisse pas la possibilité ou on empêche les enfants de réagir les uns par rapport aux autres. Donc, les chercheurs vont dire, bon, à un moment, c'était beaucoup la mode, l'enseignant intervient trop. Les enseignants de maternelle s'entendent souvent dire ça. Hein. Bon, c'est vrai dans certains cas. On va dire, on n'intervient pas assez. Bon, c'est vrai que moi, j'ai entendu des débats littéraires en particulier qui pataugeaient où chaque enfant donnait avec des interventions juxtaposées. C'est un véritable dilemme pour l'enseignant. Bon, là, je ne vous apprends rien et je ne donne pas de ressources. C'est une extrême compétence. Bon, les obstacles, les dilemmes dans ce travail, je viens un peu d'en parler, et en particulier, comment ménager les petits parleurs, parce que Florent appelle les petits parleurs, comment ménager et protéger leurs paroles. Bon, bien sûr, il y a tout le travail en petits groupes, enfin, mais dans un espace commun de la classe, comment organiser les tours de parole pour qu'ils ne soient pas dépossédés des choses qu'ils peuvent dire, par exemple les premiers moments d'une intervention, que les meilleurs puissent apprendre l'écoute, la patience, la tolérance et d'autres rôles, par exemple le rôle de synthétiser, etc. Bon, on sait bien que ça, c'est aussi un espace de marginalisation et d'exclusion pour certains élèves. Bon, comment les dilemmes dont a beaucoup parlé Pernoud, c'est lié à l'individuation et au vécu et aux références des enfants. Donc c'est vrai que comment centrer la parole sur des enfants en tant qu'individus, que personne dans la collectivité, leur demander leur avis, leur demander de parler de leur vécu, de leur identité culturelle, donc tout le problème de l'escalade scolaire, sans leur faire violence, sans les affronter à des disqualifications ou à faire intérioriser des différences. Enfin, les enfants, ils sont trop très sensibles. Donc, c'est un des dilemmes dont parle Pernoud. Je trouve que c'est quand même une des recherches. Enfin, c'est un des modèles qui m'a semblé le plus utile pour la formation, de se dire qu'on est toujours entre des objectifs différents. Parler du vécu, solliciter chaque enfant en tant que personne, avec toute son histoire, etc. Mais en même temps, ne pas faire violence, pas rendre public des différences de perception de soi ou des différences de vécu. Bon. Alors, en quoi est-ce un fondement ? Moi, j'en ai un petit peu parlé, hein. Je ne développe pas. C'est fondamental, non seulement parce que cette socialisation, cet espace commun de travail volontaire, c'est nécessaire pour avoir la paix sociale qui permettra l'apprentissage, la discipline, qui permettra l'apprentissage de la lecture, mais justement parce que cette décentration, cette façon de différer dans le temps et ces usages symboliques du langage qu'on apprend dans l'oral, c'est un fondement pour l'entrée dans la littératie. Si on considère que la littératie, c'est pas simplement la littératie restreinte, c'est-à-dire l'apprentissage d'un code pour des fonctions limitées, hein, ce que Goody appelle la littératie restreinte. Je crois que tout ce qui va faire la littératie complexe, c'est-à-dire le fait de se servir de l'écrit pour prévoir, pour comprendre, pour s'intéresser à des choses qui ne font pas partie du vécu immédiat, qui ne sont pas forcément la motivation spontanée, toute cette distance dont parle Vygotsky, je crois que c'est d'abord dans l'oral que les enfants l'apprennent. Alors, le travail sur la dimension cognitive catégorisante. Bon, c'est assez banal de dire que développer son langage, c'est toujours en même temps apprendre à penser, que toute situation de langage met en jeu toujours un travail sur les représentations, les significations, les catégories, les relations. Donc, je crois qu'on peut le dire à deux sens. D'abord, apprendre à parler, enfin à développer son langage. En termes de développement, c'est à partir de ce qu'on se fait déjà faire, c'est un apprentissage en soi. Et cet apprentissage, si on le conçoit comme le lieu d'un développement, le lieu d'un exercice du questionnement, de la réflexion, de la résolution de problèmes, c'est un petit peu la matrice de tous les apprentissages ultérieurs. Donc, résolution de problème au sens où on met l'enfant sans arrêt devant des moments où il a à mobiliser des ressources, où il a besoin de s'interroger, de savoir comment trouver comment dire des choses qu'il ne sait pas encore dire, s'interroger pourquoi les choses sont dites comme ça, etc. Donc c'est un lieu d'apprentissage. Les psycholinguistes parlent d'une sorte de résolution de problème dans l'apprentissage du langage. Et puis c'est vrai, bon, c'est à travers cette activité de réflexion sur le langage, d'interrogation, dans les premiers moments, mais même après, que l'enfant va en même temps interroger le monde, les relations qui structurent le monde, le temps, l'espace, etc. Bon, et d'autre part, on a tendance à mettre beaucoup l'accent là-dessus maintenant, c'est à travers la verbalisation et les interactions, enfin ce qu'on disait tout à l'heure, que l'enfant, lors d'activités partagées, que l'enfant va structurer, organiser son rapport au monde, élargir, se poser la question des connaissances, construire des jugements, des critères, etc. Comparer, différencier, etc. Donc on va s'intéresser alors aux fonctions du langage. Alors l'enjeu pour l'école maternelle, évidemment il est évident aussi, et bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, comme dit Pernoud, le rôle de l'école, ça n'est pas d'abord, même si c'est une condition nécessaire de réconciliation avec le langage, avec soi, avec l'école, etc., c'est pas d'abord de s'exprimer, comme on entend souvent dire, c'est pas d'abord de créer un climat convivial, même s'il est nécessaire, c'est d'apprendre la parole publique dans ses fonctions d'objectivation, de raisonnement, de développement, de connaissances, etc. Donc, développement des connaissances, même de structuration des émotions. Ce qui ne veut pas dire que n'y a pas un travail sur l'émotion aussi, hein, y compris l'émotion esthétique. Et donc, c'est très important de développer cette possibilité pour le langage d'acquérir cette fonction cognitive. Alors, le sens donné au langage dans ce cadre-là, il y a deux sens. Hein. Ça peut être ce que j'appelle la verbalisation. Bon, c'est un petit peu ce que Frédéric François appelait la mise en mots, mais c'est une expression un peu ambiguë. C'est-à-dire mettre l'accent non seulement sur les choses, désigner, identifier, etc., sur les actions, bon, apprendre les verbes, par exemple, les situations, mais aussi sur les états mentaux, croire, savoir, par exemple, croire, savoir, penser, sur les émotions, sur des qualités, sur des relations, trouver une façon de dire l'expérience. Et je m'étais intéressée, enfin, je m'intéresse toujours aux situations où les choses sont difficiles à dire. Je trouve que c'est vraiment des lieux importants. Alors évidemment, il faut doser, hein, pour pas affronter à l'échec, mais c'est important de se centrer sur les choses où la parole ne va pas relever de ce que Geoffrey François appelle le précodé. Hein. Donc, cette espèce de tâtonnement pour réussir à dire quelque chose en créant, en essayant de trouver l'ordre des mots pour dire ça, les catégories pour dire ça, le mot juste, enfin, même si l'expression est très galvaudée. Alors, évidemment, la verbalisation, donc j'avais appelé cet article-là « Les situations problèmes pour la verbalisation » en essayant de regarder les différentes choses qui pouvaient faire que l'enfant avait à construire des nouvelles ressources de mots ou d'ordre des mots, etc., pour dire quelque chose qui n'était pas précodé. C'était un article dans Repère. Alors, évidemment, c'est fortement contraint par les caractéristiques de la situation et en particulier par les caractéristiques du référent. Hein, alors, on parlera, donc ça, c'est la verbalisation. Quelles contraintes apporte ce qu'il y a à dire par rapport aux ressources qu'a l'enfant. Et ce qui veut dire qu'il faut valoriser à ce moment-là le tâtonnement et pas seulement le produit fini. Et donc, ça peut être intéressant qu'il hésite, qu'il cherche des périphrases, qu'il tourne autour de plusieurs structures. Dans ces cas-là, plus que le fait qu'il sorte une phrase peut-être plus satisfaisante, mais qui relève d'un précodé. Alors, quand on peut parler aussi de conduite langagière, c'est-à-dire les façons de se servir du langage, les actions qu'on fait avec le langage, comme dit Brunner. Et Brunner, il y a un beau chapitre dans Savoir faire, savoir dire, où il parle des cultures de la désespérance, et en disant que dans certaines conditions de vie, bah, c'est très difficile de croire à la maîtrise au rôle de la maîtrise symbolique par le langage pour prévoir ou pour avoir une prise sur les événements parce qu'ils vous tombent dessus et les contrôler ne sert pas à grand chose ou ça ne sert pas à grand chose de voir sa responsabilité, enfin de revenir sur ce qui s'est passé. Et donc là, l'important, c'est de développer chez les enfants des conduites qui sont très peu familières à certains et qui ont une fonction cognitive fondamentale pour tout apprentissage ultérieur. Donc identifier les situations sans construire un modèle mental, différencier les éléments d'un problème ou d'une situation, donc nommer, reformuler, différencier, catégoriser, formuler le but, bon, différer les consignes, enfin ça on connaît, hein, différer l'impulsivité, prévoir de façon analytique en voyant des étapes, rappeler les étapes par rapport au but, enfin ce que fait l'étayage, Brunner en parle pour l'étayage familial, mais revenir sur ce qu'on a fait, analyser pourquoi on s'est trompé, récapituler, enfin toutes ces conduites qu'on peut développer dans les échanges à propos des activités de la vie quotidienne et qu'on fait quelquefois spontanément, mais qu'on peut expliciter comme des objectifs d'apprentissage précis. Hein, ce qui veut... Donc on peut faire l'inventaire de ces conduites-là. Évidemment, ça suppose d'aménager les situations. Alors, ça dépend évidemment du moment. On ne va pas demander à des enfants de petits qui ont du mal à parler de prévoir, même à 15 jours d'empan. L'empan va être, ça peut être, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que ça va donner. Hein, c'est-à-dire qu'on mesure l'empan du retour ou l'empan de la prévision en fonction des capacités de l'enfant. C'est lié aussi au préconstruit. Comparer, différencier, etc., regrouper, etc. Alors, bon, c'est un véritable travail pour l'élève. Bon, là, je vais peut-être accélérer, hein, puisque c'est très peu familier. Ces usages sont très peu familiers pour les enfants. Et ça met en jeu des savoir-faire et des compétences cognitives qui sont progressives et qui suivent le développement. Là aussi, il faut voir un petit peu les formes primitives de départ de ce qu'est par exemple la prévision ou l'expression du but ou de l'intention, et ne pas faire pour le langage et pour ses conduites élaborées ce que je dénonçais tout à l'heure pour l'apprentissage de la lecture au CP. C'est-à-dire dire ce qu'il faut faire, c'est un discours très planificateur, etc. Et puis commencer très tôt, trop tôt, à imposer aux enfants, parce que là, ça serait un contre-étayage, des conduites cognitives, de prise de conscience, d'explicitation des buts, etc. On peut commencer en situation, dans le langage en situation, sur des choses très concrètes, à travailler sur des petits empans, par exemple, du langage de prévision ou du langage de retour sur ce qu'on a fait. Il ne faut pas conjuguer ça avec des empans grands ou avec du langage hors situation. Enfin, je reviendrai, c'est des taquets qu'on fait jouer. N'empêche que si on a explicité cette fonction, ces différentes fonctions du langage, ça peut aider à prendre conscience de ce qu'on fait spontanément, en fait, dans l'étayage. Alors, en quoi est-ce un véritable travail pour l'enseignant ? Bon, donc c'est un véritable travail parce que ça suppose, bon, d'abord d'organiser les situations de la vie de la classe, des situations de vie sociale, bon, le conseil dans l'école Freinet, bon, les situations d'apprentissage notionnelles, comme des situations de langage, au double sens de verbalisation et d'interaction. Ce qui ne se peut pas forcément. Ça suppose de bien cerner ce qui va être fonctionnel dans ces situations-là, mais à ce moment-là de l'apprentissage, et de renoncer, et c'est très difficile pour l'enseignant, de renoncer à poursuivre tous les objectifs langagiers en même temps. Bon, c'est assez banal de dire, si on est dans un moment à fonction heuristique, par exemple, de coopération pour trouver des raisons, pour trouver des catégories, pour construire. C'est inutile. Je crois qu'on ne peut pas poursuivre à ce moment-là des objectifs d'explicitation, de correction, etc. L'objectif, la complexification, ça va être, est-ce que, par exemple, les enfants peuvent, dans leurs énoncés, mettre en rapport un constat et ce que ça va produire. Un constat et pourquoi c'est comme ça. Donc ce sont ces conduites fonctionnelles, même si elles ne sont pas normées, même si elles sont du langage prédicatif, on dit toujours aux enfants, fais des phrases, sois explicite, je ne comprends pas, etc. Beaucoup d'exemples. Hein. Non, ce n'est peut-être pas ça à ce moment-là l'objectif. L'objectif à ce moment-là, c'est est-ce que un enfant répond à un autre, est-ce que dans les interventions, bon, la longueur d'une intervention des enfants, c'est toujours un bon critère, hein, mais est-ce que un enfant est capable de juxtaposer un constat et je parle des petits là, hein, parce que un constat et ce que ça va faire après, un constat et pourquoi on le fait, par exemple. Donc, il faut vraiment renoncer à améliorer le langage sur tous les points, dans toutes les situations. En particulier, bon, je pense qu'on a dénoncé, hein, le fait de dire faire des phrases. Il y a beaucoup, beaucoup de situations où c'est pas fonctionnel de demander aux enfants des phrases. Hein. Et alors, je crois qu'aussi, mais là peut-être que c'est évident, mais On a tellement valorisé le langage hors situation, le langage de récit, etc., en pensant que c'était le seul moyen d'expliciter, d'améliorer, de complexifier le langage, qu'on n'a peut-être pas mis assez l'accent sur ces formes de complexification du langage en situation, dans des situations d'action ou de recherche partagée. Alors, là aussi, c'est... Bon, alors... Bon, je sais pas tout. Les dilemmes, c'est compliqué aussi, hein, et c'est pas yaka. Bon, parce que les apprentissages notionnels et les apprentissages langagiers sont complètement intriqués, mais ils sont pas forcément, ils découlent pas forcément l'un de l'autre. Et quand on mène une séance, ils peuvent vraiment entrer en conflit. Donc, si on peut se centrer sur ces objectifs notionnels ou de conduite à forte valeur cognitive, ce qui peut quelquefois empêcher d'écouter les enfants, de les laisser parler longtemps, de les laisser digresser, de prendre le temps que chacun pose sa parole, même si ça ne fait pas forcément progresser la conduite, même si la conduite reste descriptive, etc. Donc, c'est un véritable... Ça demande aussi une très grande expertise et un très grand contrôle de la frustration et des dilemmes, de savoir gérer ces conflits entre les objectifs notionnels, les objectifs langagiers. Enfin, ces conflits et ce lien entre les objectifs. Alors, ça pose aussi le problème de la progression, qui est un problème sur lequel les chercheurs ne travaillent pas. Il y a eu un numéro de repère. J'ai essayé de reprendre cette question qui préoccupe beaucoup les enseignants, mais sur laquelle la recherche ne donne pas beaucoup de biscuits, hein, sur comment on va complexifier ces situations du point de vue du langage. Et donc, les variables qu'on peut faire jouer. Alors, j'avais déjà travaillé sur les règles de jeu, par exemple, ou bien souvent sur les recettes de cuisine. Quand on essaie de voir comment la situation de fabrication, hein, par exemple de plats ou les règles de jeu, comment construire une progression du point de vue notionnel et du point de vue du langage, sur quoi on va jouer. Alors souvent, quand on faisait des ateliers avec des enseignants pour revoir toutes sortes de facettes de la complexification du point de vue du langage d'une situation courante en maternelle, hein. Les enseignants faisaient souvent intervenir l'écrit ou le langage hors situation, puisque c'est la deuxième étape ou la troisième étape, c'était de faire intervenir l'écrit. Mais je crois que ce qui serait important, ce serait de voir sur quelles variables on peut faire jouer interne à l'oral, hein, même si l'écrit intervient, on peut faire jouer la situation de recettes de cuisine, par exemple, pour que la tâche de langage soit plus ou moins difficile. Alors, par exemple, travailler sur deux recettes ou essayer de savoir comparer une recette qu'on connaît et ce qu'on peut en tirer par rapport à une nouvelle, etc. Bon, les règles de jeu, on avait essayé aussi suite à un article de Brossard qui était assez passionnant sur la règle du jeu aux prisonniers, de voir quels étaient les problèmes que posait la verbalisation de différents types de jeux. Depuis les jeux basés sur une succession jusqu'aux jeux qui impliquaient la simultanéité, type le ballon au prisonnier, de plusieurs camps, ou la verbalisation de plusieurs espaces, par exemple. Les jeux à stratégie, les jeux à hasard, les jeux à stratégie. Donc, à ce moment-là, c'est des objectifs à la fois notionnels, mais langagiers. Et Brossard, sur la règle de jeu aux prisonniers, avait inventorié les difficultés langagières que posait, même à des adultes, hein, c'est peut-être pas un jeu pour des maternelles, la règle du jeu aux prisonniers. Alors, il faudrait faire la même chose aussi avec les livres pour enfants, qui sont devenus un support presque exclusif des leçons de langage, et essayer d'analyser les supports, non pas tellement du point de vue de leur intérêt, ou les images, par exemple, des livres, mais du point de vue des opérations cognitives ou des conduites qui suppose. Et toutes les images ne se prêtent pas aux mêmes formes, et tous les usages des images ne se prêtent pas aux mêmes formes d'effectualisation. Bon, les obstacles et les dilemmes. Bon, alors, en quoi ça fondement En quoi est-ce un fondement pour les autres apprentissages, en particulier entrer dans la littératie? J'en ai parlé un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, la littératie, qui n'est pas simplement l'usage d'un code, du code écrit pour des besoins élémentaires, puisque tout le monde... mais la littératie qui suppose de se servir de l'écrit pour contrôler son expérience, l'élargir, la structurer, ça suppose de pouvoir intégrer un certain nombre de fonctions de l'écrit, mais qui peuvent être construites dans les échanges symboliques à l'oral. Bon, la fonction, évidemment, de désignation, de reconnaissance, liée à l'épigraphie, et qui est un peu associative, la carte d'identité, etc., les papiers à remplir, les éléments de la vie quotidienne qui déclenchent des comportements. La fonction de mémoire, par exemple, c'est-à-dire se servir de l'écrit pour pouvoir revenir à des états antérieurs de croyance, de savoir et comparer à maintenant. La fonction de planification, c'est-à-dire analyser les étapes de quelque chose qu'on va faire. La fonction de structuration des idées, c'est-à-dire pouvoir cerner différents arguments, différents types d'approches, etc. La fonction légiférante, c'est-à-dire stabiliser quelque chose qu'on a décidé ou un savoir qu'on a stabilisé et s'y référer. Ce sont évidemment la fonction d'élargissement des informations et des questions à travers tous les documentaires, par exemple, sur lesquels on travaille moins maintenant en ce moment en maternelle. Tout ça, c'est ça la littératie étendue. Et si les enfants n'ont pas construit du tout ces fonctions-là, elles se construisent bien sûr à travers l'écrit, mais d'abord à travers ce qu'on fait avec le langage. Et certains enfants ne comprennent pas ce qu'on fait avec l'écrit parce qu'ils ne savent pas ce qu'on fait avec le langage. Alors, je ne parle pas de la fonction patrimoniale, des histoires, des livres, etc., parce que je trouve qu'on a tendance un peu, à mon avis, à faire qu'elles submergent les autres et à peut-être laisser à l'arrière-plan des fonctions qui peuvent peut-être parler plus à certains enfants, comme par exemple structurer les actions de la vie quotidienne par l'écrit. Alors, le travail sur la dimension linguistique, bien sûr, on ne peut pas l'isoler des autres, sur la dimension linguistique et discursive, on ne peut pas l'isoler des autres, des deux autres niveaux. Par exemple, le travail sur l'écoute, il est à la fois... cognitif. Il suppose une certaine attitude de décentration, etc. Il est linguistique. Donc comprendre ce qu'a dit l'autrui et en quoi, par exemple, un autre mot, une autre façon de dire, veut dire la même chose. Ça suppose, évidemment. Alors, je donne souvent l'exemple de la concession, mais ce n'est pas tellement un objet, apparemment, pour les maternelles. Mais par exemple, l'usage de la concession... ça suppose, on peut apprendre des formes de concession élaborées, encore que la subordonnée n'est loin d'être la seule et la plus courante. Mais apprendre la concession, ce n'est pas une tournure grammaticale. C'est à la fois une certaine décentration par rapport... on ne perd pas la face si on reconnaît que ce qu'a dit quelqu'un d'autre est vrai. En même temps, c'est cognitif, parce qu'il faut comprendre qu'on peut articuler deux points de vue. On peut être d'accord tout en n'étant pas d'accord, il faut penser deux points de vue ensemble, et ça suppose des ressources linguistiques. Ceci étant, il ne faut pas se focaliser concernant les ressources linguistiques, comme on a un petit peu tendance à le faire, sur les formes syntaxiques de la complexité, c'est-à-dire la forme la plus courante, basique, fondamentale de la construction, c'est d'accord, mais. Donc, c'est pas forcément même si. Alors, je prends un exemple sur la complexification, par exemple, un autre exemple, la complexification des syntagmes nominaux, même si c'est un peu évident, mais le fait que les enfants aient des syntaxes nominaux qui ne soient pas simplement désignatifs, c'est-à-dire « il » ou « le garçon » ou des choses comme ça, c'est lié à la construction... au développement de la construction de la référence conjointe, comme dit Brunner. C'est-à-dire, ça veut dire que si on désigne simplement, L'interlocuteur n'a pas forcément les éléments pour construire la référence. Donc, il faut construire verbalement la différence sans montrer, sans faire appel à la connivence. Bon, ça, Bentolila a beaucoup parlé de ce dépassement de la connivence. Donc, c'est dans cette situation-là, de création d'une référence conjointe, que l'enfant va avoir besoin de dire le camion de pompier. Moi, je pense à une séance sur le camion de pompier. Donc, le camion de pompier avec la grande échelle, par exemple. S'il montre l'image, il dira celui-là. Ça suppose de distinguer les caractéristiques, les propriétés ou la catégorie qui permettent de distinguer ce référent-là d'autres référents proches. Donc ça, c'est cognitif. Si je dis le gros camion ou le camion rouge, enfin pour prendre, ça permettra pas. C'est pas une caractéristique distinctive. Donc ça suppose des éléments cognitifs de construction des qualités spécifiques. Et donc, c'est dans certaines situations que les enfants vont apprendre à utiliser des groupes nominaux complexes, par exemple avec la relative ou avec les compléments de nom. Donc, c'est très tributaire de la situation qu'on va installer, du support et de ses propriétés cognitives, par exemple des supports, des référents qui sont proches, plus ou moins proches, c'est-à-dire qu'on ne peut pas désigner globalement, et des situations de transmission de références non connues pour certains. Donc, le travail linguistique n'est pas seulement formel. Et c'est pour ça que je suis toujours très sceptique concernant les formes d'évaluation en termes de présence-absence, ou acquis-non-acquis, enfin ce genre de... Bon, parce que en fait, derrière les acquisitions linguistiques, il y a toujours une construction cognitive, linguistique, cognitive, sur la signification et sur le rôle des éléments linguistiques, qui est un développement. Et c'est vrai pour le vocabulaire, c'est vrai aussi pour les connecteurs, c'est vrai aussi pour les... Alors, c'est sûr que... Et donc, si on dit acquis, non acquis... En termes linguistiques, on peut penser qu'une fois que l'enfant a l'étiquette verbale, et donc souvent dans les évaluations les plus traditionnelles, on dit il utilise des connecteurs, par exemple. Il utilise parce que, ou il connaît des structures de subordination. Mais on ne tient pas compte du fait que du développement et du sens différent que prennent ces éléments-là, dont on constate la présence ou l'absence, dans le développement de l'enfant. Alors, quelquefois, Fayol le montrait, les connecteurs, par exemple, et c'est vrai aussi des étudiants, la présence de connecteurs n'est pas en soi un indice de progrès, et il y a des progrès qui se marquent par le fait qu'on utilise moins de connecteurs. Donc, le développement du langage n'est pas forcément... Donc je crois qu'il faut le concevoir en termes de développement et en essayant de voir comment les relations sémantiques, la construction des significations évoluent et se complexifient au cours de ce développement. Alors c'est vrai que l'objectif fondamental, vraiment fondamental, bon, alors on peut dire sur deux choses fondamentales, qui est la question du vocabulaire et la question de la complexification. Donc, la question de la complexification, bon, c'est vrai que l'objectif fondamental du langage en maternelle, c'est de conduire les élèves à un langage plus relationnel, moins factuel, moins désignatif. C'est très banal de dire ça. Plus explicite quant aux liens. Alors, j'insiste, je dis plus explicite quant aux liens, parce que c'est pas évident que quand les liens ne sont pas explicites, liens entre énoncés, les relations ne soient pas là. C'est ce qu'on avait compris des travaux de Lantin dans les années 70-80, que sans introducteur de complexité, comme elle disait, ça voulait dire qu'on n'établissait pas les liens, donc on avait un langage inapte au raisonnement. Je crois que ça, c'est pas vrai. Donc, ce qui va être le plus important, je crois que le critère de longueur des énoncés, qui a l'air tout bête, il est intéressant de ce point de vue-là, même s'il est très gros, très grossier. Ce qui est important, c'est que les élèves prennent la parole en progressivement réussissant à articuler 2, 3 énoncés de statuts différents. Alors, statut différent, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, un constat et sa justification. Alors, justification sur l'énoncé ou justification sur l'énonciation. C'est pas vrai, etc. Je l'ai vu à la télé. Là, c'est plutôt une justification sur l'énonciation. Un constat et anticiper sa conséquence. Il est mouillé, sa maman va le gronder, hein, pour des petits. Un constat et sa cause, etc. Un fait un peu général, un exemple qui l'était. Un exemple, une situation, une dérivation un petit peu générale. Et ça, c'est fondamental. Et donc, c'est ce qu'il faut apprendre à lire, parce que les indices sont beaucoup l'intonation, et sont aussi les indices qui n'étaient pas dans les évaluations. Alors, elles ont, dans les dernières, on en parle, par exemple, je trouve souvent les débutants, n'étaient pas sensibles au jeu des temps, par exemple. Donc, ils étaient très sensibles aux liaisons, que les enfants devaient vraiment signaler que tel énoncé était une conclusion, par exemple. Et je trouve un élément très, très important, mais peut-être que je dis une banalité, c'est la façon dont les temps entrent en tension dans un énoncé à deux propositions ou trois propositions. Hein, du genre, il s'est mouillé, sa maman va le gronder, par exemple. Hein, il pleure, il a cassé son... Donc c'est un petit peu les amorces de la mise en relation, c'est de faire fonctionner deux... Alors, ce qui veut dire aussi que les temps verbaux, il faut les apprendre aux enfants, il faut les systématiser dans leur corrélation. Et donc l'intonation, je pense que pendant longtemps, l'intonation, elle est vraiment le moyen le plus normal, ou les différents sens de « alors » pour les enfants, et que c'est plus important qu'ils apprennent à mettre en relation, quitte à leur expliciter la relation, que d'exiger des choses formelles. Donc, alors ça, c'est l'auto-enchaînement. Bon, on peut espérer que, en laissant l'espace aux enfants, ils vont réussir à arriver un petit peu à un langage autonome syntaxiquement, comme disait Lantin. Mais c'est important aussi de voir que ces articulations, elles ont lieu dans le dialogue, au langage d'autrui. C'est un enfant, il est capable de prolonger, il est capable de reformuler, il est capable de se différencier. Donc il y a des énoncés qui ont l'air simples dans le dialogue, quelquefois même pas des phrases, ou que c'est une phrase qui a l'air simple. Mais quand on regarde comment il se situe par rapport à l'intervention d'avant, on s'aperçoit que c'est une conclusion ou c'est une raison. Et donc, ce sont des formes de complexification qu'il faut viser et valoriser. Voilà. Donc, autre idée sur le développement, c'est que les formes, c'est un véritable travail pour l'enfant, parce que, en fait, ce développement du langage dans l'initiation, ça va l'affronter à des conflits, comme je disais tout à l'heure, au cours duquel les choses qu'il a acquises vont changer de sens, vont se développer. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire acquis, non acquis. Je pense à l'exemple, pour le vocabulaire, je pense à l'exemple de Piaget qui est frère. Bon, l'enfant apprend très vite le mot frère, mais il l'utilise dans des usages désignatifs. C'est mon frère, ou le frère de un tel, c'est ça. Et Piaget montre comment le développement du mot frère suit quelque chose de très très long et que c'est relativement tardif où ça différencie, les usages sont d'arriver à certaines tournures, à certains usages relationnels du mot frère ou intégratif. Nous sommes frères, je suis frère d'eux, etc. Donc, bon, l'exemple que je donne, ça vaut aussi pour plein d'autres choses. C'est pas parce que l'étiquette verbale est acquise ou utilisée par l'enfant que le développement ne va pas continuer et qu'il ne faut pas viser un travail pour le continuer à l'utiliser. Alors, dans des positions discursives différentes. Par exemple, Clark montre comment les enfants, au cours de l'acquisition, les mots acquis, et donc en particulier les verbes, sont très liés à des constructions syntaxiques ou des places syntaxiques très limitées. C'est-à-dire que certains mots vont toujours être en position complément. J'avais utilisé avec Marcina Lapara, c'est que les mots nouveaux, les mots abstraits, les relatives, effectivement, interviennent toujours en seconde partie en position prédicative, c'est-à-dire après le verbe. Jamais en position de thème. Pareil pour les mots abstraits. Hein, et ça, encore au CM, on n'avait jamais réussi à faire utiliser dans un travail sur les échanges. On n'avait jamais réussi, enfin, c'était pas un but, mais à faire utiliser aux enfants le mot échange en position thématique. C'était toujours on fait des échanges, il fait des échanges, etc. Jamais échange dans les interactions et même les écrits n'avait pu être en position sujet comme c'est dans les documents qu'on leur donne en sciences ou en géographie. Donc les positions, les rôles thématiques, les positions syntaxiques évoluent et derrière il y a tout un travail cognitif. Donc je veux dire, c'est pas parce que l'enfant connaît le mot échange que ça veut dire autre chose que la situation de troc auquel il pense quand on dit on fait des échanges. Que l'échange devienne un thème qu'on se définit, c'est tout un développement très très complexe. Donc ça veut dire que une fois que l'enfant a acquis les choses, il va étendre les constructions. C'est pour ça que c'est, par exemple, pour les verbes, c'est très important d'étendre les constructions. Il va étendre les contextes linguistiques. Enfin, il va étendre ou pas. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il va apprendre à utiliser un verbe, par exemple, pour échanger avec certains types de sujets et certains types de compléments ou pas. Par exemple, on avait vu qu'ils échangeaient des comptables, des réalités comptables, qu'ils avaient énormément à utiliser, échanger pour des choses non comptables, c'est-à-dire de l'argent, des choses comme ça. Hein, c'était des choses qu'on échangeait. Bon. Il va utiliser des constructions. Clark montre que les constructions des verbes sont très limitées et des significations différentes. Alors, l'idée, donc, c'est que, à ce moment, qu'il vaut peut-être mieux prendre conscience de ce travail, se greffer sur ce travail, pour revenir sur cette activité de contextualisation, décontextualisation, sur des mots qu'on juge des mots ou des tournures qu'on juge pertinentes. Et je pense que pour la question du vocabulaire, qui est au centre du travail sur le langage, c'est très important, il y a tellement à faire, de se dire quel est l'enjeu de ce travail sur les mots. Et est-ce que c'est un mot important? Alors, important, ça veut dire plein de choses, mais se poser vraiment la question, qu'est-ce qui va apporter? Hein, on avait travaillé sur le vocabulaire des émotions. Qu'est-ce que c'est qu'avoir honte, je me rappelle? C'est peut-être plus important que développer un immense vocabulaire technique, même si les enfants aiment bien les taxonomies. Mais se poser la question de la pertinence, par exemple, du point de vue de la structuration de l'expérience ou du point de vue simplement de l'usage linguistique. Et à ce moment-là, d'y rester longtemps, d'inventorier, de prendre le temps de cette construction de signification et d'y revenir beaucoup en distinguant le vocabulaire qu'on juge pouvoir rester dans le vocabulaire passif, c'est-à-dire qu'il comprenne quand il rencontre, et le vocabulaire qu'on juge important, qu'il doit passer dans le vocabulaire actif, c'est-à-dire être utilisé. Et donc, Florin le disait déjà, Erlich le disait déjà, un enseignement, quelque chose de moins extensif. Mais je crois que la question de la hiérarchie est fondamentale. Et ça, on ne le voit pas toujours en maternelle. Je pense que quelquefois, le mot rare est dans la liste des mots qui sont à le répertoire à la fin des instructions. Je trouve qu'il est très, il n'établit pas du tout cette hiérarchie. Alors, dernier point, la question du coût. Je trouve que c'est une question très, très importante. Je vais terminer là-dessus sur la compétence de l'enseignant. C'est que la compétence du travail de l'élève et le travail de l'enseignant, c'est des acquisitions qui ont l'air pareilles. On croit qu'apprendre des mots, c'est comme ajouter des perles sur un fil. Apprendre des temps verbaux, c'est une chose de plus. Je crois qu'il y a des coûts en ergonomie. Il y a des coûts et des revenus, si vous voulez. Hein, je parlais du mot, choisir les mots importants et féconds, si vous voulez. Mais il y a aussi la question du coût. Et la coût, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le même effort cognitif et donc c'est pas forcément la même contribution au développement que d'apprendre tel et tel mot. Bon, c'est évident pour les mots désignatifs qui sont un peu des étiquettes sur les choses. Et donc, c'est plus coûteux, mais c'est plus intéressant d'apprendre à... C'est une tradition maternelle, à travailler sur la verbalisation des sensations ou la verbalisation des émotions ou des opérations mentales. Parce que là, on doit réfléchir sur l'expérience, la structurer, être méchant, comme disent les enfants, ben, c'est pas pareil qu'être sévère ou qu'être en colère, par exemple. Hein, je pense. Et donc, dans ce cas-là, il faut construire les catégories à partir d'une réflexion sur l'expérience. C'est pas facile. Ça met en jeu l'état de savoir extrascolaire et l'état d'émotion. Mais je pense que c'est un outil. Hein, c'est un outil cognitif et social. Bon, c'est pas. Je pense que. Là aussi, c'est pas pareil d'exiger les enfants. Les tournures sont plus ou moins coûteuses. Par exemple, on n'apprend pas la subordonnée de temps. Ferrero montrait que c'est pas du tout pareil d'acquérir, de comprendre ou d'acquérir la subordonnée temporelle quand l'ordre linguistique suit l'ordre des actions dans la vie et l'ordre ou quand elle contrarie. Donc, quand tu auras mangé, tu te laveras les dents. Hein, là, il y a un script. Hein, donc, on peut penser que s'ils se lavent les dents dans leur famille, ils savent qu'on se lave les dents après avoir mangé. Mais ce n'est pas du tout le même travail cognitif. Il est plus précoce que de dire tu te laveras les dents après avoir mangé. Oui, après avoir mangé. Ben, bon. Pareil pour l'ordre des mots, le passif, etc. Donc, les mots vont intervenir. Je crois qu'on n'a pas toujours conscience, parce que c'est un peu plus spécialisé, que des choses qui ont l'air pareilles, par exemple, proposer à l'enfant, lui demander d'utiliser la relative en première partie ou en seconde partie, c'est pas du tout le même coup. Et donc, là, on arrive à un travail un peu plus technique. Hein. Marceline Laparra l'avait fait pour les relatifs, par exemple. Donc, c'est très important de doser ce coup. C'est-à-dire, pour construire les progressions, pour qu'il y ait un effort et situation problème, mais pas croire qu'on fait la même chose. Bon, donc je termine là-dessus en disant, tout ce travail qui se fait, aussi bien interne à l'apprentissage du langage que dans les fonctions communes qu'il développe, c'est un fondement. Si on ne veut pas rester à des formes très, au fond, à mon avis, très, très limitées, si elles viennent trop tôt, de travail sur le code. Bon, je trouve que, comme à un moment, longtemps, on parlait du bagage de mots à l'écrit, et j'ai vu mémoriser des tas d'étiquettes. Bon, ça a été de l'associatif. On associait une étiquette à une chose. À mon avis, c'était par certains côtés un contre-apprentissage pour entrer dans l'écrit. Parce que le mot, c'est pas une étiquette, c'est inséré dans une relation. Bon, peut-être qu'actuellement, je dis peut-être des choses évidentes, hein, mais actuellement, trop tôt, passer trop de temps avec des enfants trop petits à repérer des sons dans le langage, sans rattacher ça à un ensemble de relations un peu réflexives au langage, apprendre à comparer ce qu'on a dit, comment on le dit, est-ce que c'est la même chose, etc. Ça peut être des opérations très régressives et uniquement perceptives. J'entends « a » ou j'entends « i » dans tel mot. Ça ne veut pas dire que c'est plus qu'un repérage perceptif. Bon, c'est un peu polémique. Hein. Mais je veux dire que le fondement, à mon avis, il est dans ces grandes fonctions que j'ai essayé de développer, ce travail de résolution de problèmes à l'intérieur du langage. Ceci étant, ces points-là, ça peut être des fils rouges au sens où, idem, c'est pour ne pas se culpabiliser, parce qu'il y a une énorme pression sur les enseignants, je crois qu'il faut accepter qu'on n'a pas la maîtrise et qu'on perd toujours sur un tableau ce qu'on gagne sur un autre. C'est pas facile à dire. Et que donc, il faut essayer de voir un petit peu quand on intervient, quand on construit, devant les choix qu'on a sans arrêt à faire, avoir un petit peu conscience de là, je joue sur ce tableau. Par exemple, j'interroge un tel, je sais qu'il va ralentir le progrès notionnel de la séquence, mais il faut qu'il parle ou il ne faut pas qu'il se détache, etc. Enfin, ce que font. Donc, avoir bien conscience de ces différents plans simultanés sur lesquels on joue, assumer les conflits, parce que les chercheurs ne comprennent pas toujours quand ils jugent de la qualité des interventions des enseignants. Et je pense que c'est en fait et admettre le temps. Je terminerai là-dessus. Je ne crois pas qu'en accélérant les choses à cause de la pression, on puisse prendre le temps de ce développement des choses fondamentales. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il faut attendre la maturation. Je pense qu'on peut. Je ne sais pas si les fils rouges sont clairs hein, et dans ce que j'ai dit et apportent quelque chose, mais ça peut correspondre à des petits taquets. souvent du taquet. On avance un taquet, par exemple sur la complexification, en choisissant un référent plus compliqué, un petit peu le début de la stratégie et pas seulement le déroulement des règles du jeu. Mais à ce moment-là, on recule le taquet sur le langage hors situation et on revient au langage d'action, par exemple, parce que là, on veut travailler le raisonnement sur la stratégie. Et donc, on est sans arrêt amené à déplacer des toutes petites choses pour avoir des tout petits progrès. Alors, ce que je voulais faire simplement, puis je termine là, c'est que il faut avoir confiance dans ce travail qui est minuscule, savoir qu'il est très exigeant et très professionnel et que ça peut permettre de résister à des pressions, à des critiques et admettre cette très grande frustration qu'on a quand on travaille le langage en maternelle. Voilà, j'arrête.